Bonsoir et bienvenue dans l'Amérique et vous, Eric Manirakiza avec vous au micro. Ce soir, nous discutons du récent décret signé par le président Joe Biden qui restreint l'accès des migrants sans papier aux États-Unis, accélère les expulsions et rend plus difficile l'obtention de l'asile. Ce décret, en vigueur à 5 mois des élections présidentielles de novembre, soulève de vives préoccupations alors que les défenseurs des droits d'asile dénoncent une atteinte aux droits fondamentaux. Les migrants africains transitant par le Mexique se retrouvent particulièrement vulnérables. Nos invités examinent l'impact électoral de cette décision, ses implications pour l'avenir de l'immigration et de l'asile aux États-Unis et les défis auxquels sont confrontés ces migrants dans leur quête de sécurité et de refuge. Josèle Morissin assure la réalisation et la production. En ligne avec nous, Marlene Sefocle, professeure à Howard University à Washington DC. Bonsoir Marlene.
Oui, bonsoir.
Et bienvenue dans l'Amérique et vous.
Merci.
Jean-François Seznec, directeur de Lafayette Group, joint à Annapolis dans l'état du Maryland. Bonsoir, monsieur Seznec.
Oui.
Nous avons à Dakar, au Sénégal, Ibrahima Kane du bureau ouest-africain de l'ONG OSIWA. Monsieur Kane, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à, encore une fois à vous tous dans cette émission. Je vais commencer avec vous, Marlene. Comment ce décret s'aligne-t-il avec les valeurs et les promesses de campagne de Joe Biden en matière d'immigration?
Alors, si vous voulez, il y a un décalage entre les promesses au niveau présidentiel et ce décret qui vient d'être annoncé. Parce qu'il y avait au départ une intention de protection des migrants, protection de surtout pour ceux qui cherchent l'asile politique ou autre forme d'asile. Et donc, il y a une sorte de décalage entre les deux, puisqu'il s'agit maintenant de restreindre l'immigration. Alors, à un moment où l'immigration est d'avance et plus ou moins... croissante.
Est-ce que, selon vous, ce décret parvient-il à concilier la sécurité des frontières avec le respect des valeurs humanitaires et des droits des migrants, Marlene?
On ne peut pas dire que cela concilie les deux, parce qu'il y a, si vous voulez, il y a un aspect politique, si vous voulez, à tout cela. Il s'agit surtout de... il y a tout un électorat qui est contre l'immigration et qui n'est pas nécessairement dans le camp trumpiste. Donc je pense qu'il y a un effort pour plaire à cet électorat qui est, si vous voulez, un petit peu entre deux chaises.
Jean-François Seznec, le décret du président Biden représentait-il une solution efficace aux défis migratoires actuels aux États-Unis? Comment évaluez-vous son efficacité probable en termes de contrôle de la frontière sud et de réduction des flux migratoires?
Je pense qu'effectivement, ça va avoir une influence sur la diminution du flux migratoire. Déjà, il y a eu pas mal de limites sur les entrées illégales aux États-Unis depuis quelques semaines. Mais bien sûr, ça crée des problèmes électoraux pour M. Biden, comme Marlene vient de le dire. Mais effectivement, ça peut être un peu efficace pour limiter l'immigration, ce qui serait peut-être plutôt positif pour les votes en faveur de Biden et contre Trump.
Et en quoi le décret de Biden, je m'adresse toujours à vous, à Jean-François Seznec, en quoi ce décret diffère-t-il des politiques migratoires de l'ère Trump et comment peut-il être perçu par la base démocrate?
Bah, écoutez, à mon avis, il n'y a pas vraiment de différence entre le programme migratoire de Trump et le programme migratoire de Biden maintenant, parce qu'ils essayent de plaire au même électorat, en fait. Mais alors, ce que Biden essaye de faire, c'est qu'il essaye de mitiger la chèvre et le chou, si vous voulez. D'un côté, il rend le flux migratoire beaucoup plus difficile, et d'un autre côté, il va rendre la vie, il paraît qu'il va rendre la vie un peu plus facile pour les 500 ou 800 000 personnes qui sont mariées à des citoyens ou citoyennes américaines. Donc, ce qui aidera un petit peu le problème migratoire et plaira plus à la base. Donc, c'est quand même... Mais pour répondre à votre question précisément, il n'y a pas vraiment de différence entre Trump et Biden à ce niveau-là.
Ibrahim Bakan, il y a des milliers d'Africains qui traversent l'Amérique latine pour atteindre des États-Unis. Est-ce que vous pensez que ce décret est-il susceptible de dissuader ces migrants africains qui empruntent la route via l'Amérique latine? Et pourquoi?
Pas du tout. Pas du tout. Et les gens vont continuer à trouver les chemins du Nicaragua, du Venezuela et même du Mexique pour rejoindre les États-Unis. Parce que simplement, ce genre de phénomène, ce ne sont pas des décrets qui vont les arrêter. Et l'exemple que je peux vous donner et qui vous montre à quel point ce n'est pas possible d'arrêter ce genre de mouvement, c'est que hier, un grand nombre de migrants qui avaient été arrêtés en Angleterre et que l'on devait transporter au niveau du Rwanda ont été libérés par la justice en disant que ces personnes-là sont venues pour chercher l'asile et que ces personnes-là avaient le droit, comme le droit international leur permet, ont le droit de demander et que s'ils n'obtiennent pas l'asile, qu'ils puissent retourner chez eux. Donc, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Amérique, ces politiques-là ont un caractère politique tellement prononcé que l'on n'arrive pas à comprendre comment, malgré tout ce qu'ils font, ils ne peuvent pas arrêter les gens de continuer à penser aller aux États-Unis. Et quand les gens se déplacent, ils vont retrouver des parents, ils vont retrouver des personnes qu'ils connaissent. Donc, la mobilité des personnes ne peut pas faire l'objet d'un chantage politique et la mobilité des personnes doit être mieux organisée pour que les gens puissent aller et revenir dans de meilleures conditions. Ils vont créer beaucoup de réseaux mafieux et ces réseaux mafieux vont continuer à transporter les gens vers les États-Unis.
Et quel est l'impact sur les perceptions des États-Unis en Afrique?
Bien sûr que pour un pays, par exemple, comme le Sénégal, ça va commencer à donner une image un peu plus négative des États-Unis. Les Sénégalais aux États-Unis ont toujours été bien traités. Le Sénégal fait partie des rares pays africains où on a un visa automatique de 10 ans quand on en fait la demande. Et donc, ce genre d'attitude, ce genre de comportement va simplement ternir l'image de marque des États-Unis auprès des populations. Et on va commencer à assimiler les États-Unis à la France, les États-Unis au Royaume-Uni, les États-Unis à la Belgique et à tous les pays qui essayent de tout faire pour restreindre la mobilité des personnes. Et je pense que ça, ce n'est pas bien pour un pays comme les États-Unis qui était vraiment très bien vu dans notre région.
L'émission, c'est l'Amérique, vous. On parle de la politique migratoire de l'administration Biden, une nouvelle approche controversée vers l'immigration. Jean-François Seznec, quels sont les principaux défis logistiques et humanitaires que ce décret pourrait poser aux autorités américaines et mexicaines?
Bien, écoutez, ça va être bien sûr très compliqué pour les autorités des deux pays et surtout pour les migrants, parce que on ne sait pas vraiment, enfin moi je ne suis pas au courant vraiment de ce qui va se passer, comment ils vont faire pour arrêter les gens et les remettre tout de suite à la porte, ou bien pour essayer de travailler avec les Mexicains pour les empêcher d'arriver jusqu'à la frontière. Mais il est certain que ça va être très difficile pour les migrants surtout, et parce que les pays, surtout les États-Unis en ce moment, changent tellement et les idées des gens changent tellement vite et de l'administration change tout le temps. Donc on ne veut pas vraiment savoir comment ça va se passer, enfin à ma connaissance.
Marlène, quels avantages électoraux les démocrates pourraient-ils tirer de cette mesure, notamment auprès des électeurs modérés et indécis?
Alors, auprès des modérés et des indécis, vous, parmi eux, vous en avez qui, du point de vue social, ils sont pour des réformes, et en particulier des réformes de l'immigration. Et donc, ça pourrait être décisif au niveau de cet électorat qui est indécis, cet électorat qui est républicain ou libertarien, et qui n'a pas, ou alors des démocrates conservateurs, et qui n'ont pas vraiment déjà choisi leur camp, mais qui sont quand même assez sûrs de ce qu'ils veulent en matière d'immigration. Et si ce programme se rapproche de ce qu'ils désirent voir dans le pays en matière d'immigration, cela peut être décisif au moment des élections. Donc, et ça va se jouer, si vous voulez, du côté des indécis, du côté des modérés, qui, eux, veulent s'accrocher à certaines idées pour pouvoir justement ne pas voter Trump. C'est une arme de plus que leur donne Biden pour éviter le vote Trump. Parce que là, sur cette question, Trump et Biden ne sont pas tellement différents. Leur programme n'est pas tellement différent. D'ailleurs, le programme que Biden avait proposé, c'était aussi un programme qui avait été présenté au départ par les républicains, et que les républicains, après, avaient rejeté justement parce que c'était présenté par Biden.
Ibrahim Akane, comment les gouvernements africains pourraient-ils réagir à cette nouvelle politique américaine en matière d'immigration, et quelles mesures pourraient-ils prendre pour aider leurs citoyens?
Alors, s'agissant de nos dirigeants, traditionnellement, nos dirigeants ne s'expriment pas sur les décisions ou sur les projets de politique adoptés par les États du Nord. Que ce soit la France, que ce soit le Royaume-Uni, il y a toujours un silence pratiquement total sur ces questions. Seulement, vous savez comme moi qu'il y a des courants souverainistes maintenant qui sont en train de voir le jour, notamment en Afrique de l'Ouest, et que dans un pays comme le Niger, parmi les plus pauvres du monde, le gouvernement a décidé de demander aux États-Unis de quitter, enfin, aux militaires américains de quitter leur territoire nigérien. Donc, peut-être que si, parce que jusqu'à présent, les informations qu'on a n'indiquent pas clairement que des Africains ont été malmenés, des Africains ont été directement affectés par ce qui est en train de se passer du côté de la frontière mexicaine. Mais si d'aventure il arrivait que des Nigériens, des Maliens ou des Burkinabés soient concernés, peut-être qu'à ce moment-là, les dirigeants de ces pays-là, qui essaient de voir le monde d'une certaine façon, pourraient réagir. Mais la réaction ne pourra être que verbale, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de coercition à l'égard des États-Unis. Les États-Unis, quand même, c'est la grande puissance. Et puis, le commerce avec les États-Unis, les relations, de manière générale, les relations ne sont pas aussi fortes avec les États-Unis que des pays comme le Kenya ou l'Afrique du Sud ou bien même l'Égypte. Ces pays-là ne diront pas grand-chose, mais pour les pays du Sahel, peut-être qu'on verra d'ici et là quelques réactions. Mais à part cela, ce sera le silence total.
Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit plutôt que ces mesures ne vont pas du tout dissuader ceux qui veulent toujours partir. Quelles alternatives pourraient-ils envisager?
Alors, mais ils ont beaucoup d'alternatives parce que, vous savez, les courants migratoires à destination des États-Unis, s'ils ne sont pas légaux, c'est-à-dire si les gens n'ont pas de passeport, ces courants-là sont toujours contrôlés par des réseaux mafieux. et ces réseaux mafieux peuvent utiliser un système et demain, quand ce système-là se renferme, utiliser d'autres systèmes. Je pense qu'ils vont, rester dans ces pays-là, dans les pays de l'Amérique latine, pour essayer de laisser passer l'orage, si je puis dire, en attendant que l'élection se passe. Et une fois qu'on aura l'élection, si Biden gagne, je pense que Biden il va abandonner cette politique. Ici, tout le problème, c'est l'élection du mois de novembre. Et d'ici novembre, ce n'est pas, c'est à peu près 5 mois. Et donc, ils vont attendre de voir comment les choses se passent et décider d'aller. Ou bien aller dans les autres pays de l'Amérique latine. N'oubliez pas, par exemple, que pour les Ouest-Africains, maintenant, l'Argentine, le Chili sont devenus des... Même l'Uruguay, ils sont devenus des états de destination. Et donc, ils vont aller dans ces pays-là, rejoindre leurs compatriotes qui sont nombreux dans ces pays et attendre que les choses se clarifient pour les États-Unis et puis continuer à aller là-bas. Parce que c'est la recherche du travail qui mobilise toutes ces personnes, qui les motive. Et le travail n'existe qu'en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, au Canada, et donc ils vont tout faire pour y aller. Rien ne les arrêtera, à mon avis.
Marlene, l'électorat des Africains américains est très convoité par les deux candidats, le président Biden et son prédécesseur Donald Trump. Quels effets ce décret pourrait-il avoir sur les migrants africains cherchant à, disons, en quoi cette politique, nouvelle politique, pourrait-elle influencer les décisions des migrants africains qui sont ici établis? Marlene?
Yes. Oui.
Oui, vous m'entendez?
Oui, mais je vous entends.
Oui.
Vous pouvez répéter la question.
Oui, je disais que les deux candidats, le président Biden et son prédécesseur Donald Trump, convoitent l'électorat des Africains américains. Quels effets ce décret pourrait-il avoir sur ces électeurs?
Alors oui, je ne pense pas que ça va tellement changer la donne pour l'électorat africain-américain, parce que l'électorat africain-américain, en général, vote surtout démocrate. En ce moment, ce qui est sur la scène internationale, ce qui prime, c'est surtout ce qui se passe en Palestine. Et donc, mais l'électorat africain-américain se pose toujours sur les questions qui ont trait à l'Afrique. Si vous voulez, quand il y a une donne, une action de la part du président qui affecte l'Afrique, ça touche certains dans l'électorat africain-américain. Je ne sais pas si ce sera grand, si ça va changer complètement le vote des Africains-américains. Ça, je ne le pense pas, parce que les deux partis présentent un programme qui est pratiquement identique.
Jean-François Seznec, toujours cette question, quelles pourraient être les conséquences électorales pour Joe Biden et les démocrates?
Écoutez, je pense qu'effectivement, ça pourrait être relativement positif pour Biden, au sens où Trump et sa campagne avaient fait de l'immigration le plus gros problème des États-Unis, et que tout d'un coup, ce problème disparaît un petit peu parce que les programmes, comme l'a dit Marlene si bien, les programmes sont les mêmes. Donc, je ne pense pas vraiment que ça aura un changement trop négatif pour Biden. Plutôt, ce serait même plutôt un peu positif, parce que beaucoup de gens qui allaient voter contre lui à cause de l'immigration, maintenant ne voteront plus contre lui.
Oui, tout à l'heure, Ibrahim Akane a dit que c'est un décret qui est signé, mais qui est lié aux élections de novembre, ce qui montre une une mauvaise image au niveau du continent africain. Jean-François Seznec, cette question migratoire aux États-Unis, c'est une question qui est toujours récurrente. Pourquoi les politiques des deux partis ne parviennent toujours pas à s'entendre pour réformer?
Parce que personne ne veut être vu comme celui qui gagne ou celui qui perd. Et pourtant, il y a une majorité dans le pays qui peut résoudre ce problème. Je pense qu'il y a même une majorité à la Chambre des députés qui voudrait résoudre ce problème, mais personne ne veut être vu comme celui qui fait un compromis. Donc tout le monde veut avoir une victoire absolue pour pouvoir en profiter politiquement. Et ça, c'est très dommage, parce que du côté démocrate et du côté républicain, personne ne peut prendre les responsabilités pour résoudre le problème, alors qu'en fait, ils sont fondamentalement d'accord.
Est-ce que vous... Il y en a qui pensent que peut-être la question n'est pas réglée pour qu'elle soit, comment dire, chaque fois l'objet d'un argument électoral.
Oui, tout à fait. C'est tout à fait vrai. Tout le monde veut utiliser ça comme un argument électoral, parce que c'est un argument électoral qui ne coûte pas cher, si vous voulez, parce que les immigrants ont très peu de pouvoir, ils ne peuvent pas se défendre vraiment. Alors on peut dire tout ce qu'on veut contre les immigrants, d'une façon ou d'une autre.
Marlène? Marlène, vous êtes là.
Je disais, M. Seznec, il s'agit donc d'un argument presque gratuit. Et il faut se rappeler qu'il y a, quand Trump était au pouvoir, quand il était président des États-Unis, il disait carrément qu'il voulait seulement un certain type d'immigrants. Il voulait simplement, et il avait donné l'image de l'immigrant qu'il souhaitait avoir aux États-Unis, c'est-à-dire un immigrant scandinave. Il fallait parler surtout de la Norvège. Il disait qu'il voulait des Norvégiens donc cela voulait tout dire. C'est un argument qui a été interprété comme étant un argument qui met en avant la race, parce qu'il voulait simplement cela montrait qu'il voulait simplement des immigrants venant de l'Europe du Nord. Et donc, ça n'avait pas du tout plu à l'électorat africain-américain, et qui disait que l'immigration doit être diverse, doit comporter des personnes venant de tous horizons, pas seulement les personnes venant de l'Europe du Nord. Et c'était là l'argument que lui, Trump, quand il était président, avait mis en avant. Donc, les électeurs ne sont pas dupes. Les électeurs savent qu'il y a, quand il y a une réforme, quand cette réforme vient de Trump, c'est une réforme qui vise certaines catégories. Tandis que quand elle vient des démocrates, elle vise un peu tout le monde, si vous voulez. Tout le monde est logé à la même enseigne, quel que soit le pays d'où ils viennent.
Oui, mais les sondages montraient que le président Trump est plutôt bien positionné sur cette question. Beaucoup d'électeurs pensent que lui, il peut trouver des solutions sur cette question migratoire.
Non, quand il était président, il n'a pas trouvé de solution. La seule solution qu'il avait trouvée, c'était une solution extrêmement néfaste, puisqu'il s'agissait d'enfermer des enfants, de séparer les enfants des parents dans des camps de déportation. Et ça avait été très mal vu, parce que vous aviez beaucoup d'enfants qui étaient complètement déboussolés, sans leurs parents. Et cette image avait beaucoup fait beaucoup si vous voulez, de dommages.
Ibrahim Akan, en quelques secondes, est-ce que vous pensez que les pays africains devraient commencer à s'intéresser à leurs citoyens et à ne pas laisser ces gens partir?
Oh, mais comment voulez-vous que des États qui sont dans des situations économiques très compliquées, très difficiles, que ces États, en plus de ne pas pouvoir régler les problèmes de leurs concitoyens, fermer la porte en leur disant que vous n'allez nulle part? C'est comme si on demandait à ces États-là de créer des prisons à ciel ouvert. Ça, d'abord, ce n'est pas inimaginable, ce n'est pas possible, et il faut que le monde arrête de jouer avec la libre circulation des personnes.
Merci beaucoup.
C'est vraiment une mauvaise chose.
Merci beaucoup. La politique migratoire de l'administration Biden, une nouvelle approche controversée vers l'immigration, c'était notre sujet. Merci à Jean-François Seznec, Marine Sefok et à Ibrahim Akane. Eric Manelakis a été avec vous. Joselle Morissin a assuré.